Amis de YouTube, bonjour, vous êtes dans la matinée, Etienne sur Twitch, c'est la grande revue de presse du matin. Et on s'est dit avec nos amis de Twitch dans le chat qui vont vous dire bonjour, qui vont dire bonjour YouTube, eh bien qu'on pouvait aussi vous mettre pour vous, amis de YouTube, n'hésitez pas à dire bonjour à nos amis de Twitch.
Bonjour les amis de Twitch.
Mettre en avant cette actu sur l'Iran ce matin à propos du détroit d'Hormuz. On parle beaucoup de ce détroit d'Hormuz depuis quelques jours dans l'actualité. Il y a un dossier qui est extrêmement clair, pédagogique, sur ce qui se passe là-bas. Il est en une du Parisien. Ce matin, je vous le lis. Détroit d'Hormuz, le dernier atout des Mollahs. Les frappes iraniennes sur les alliés des États-Unis et Israël n'ont pas dissuadé ces derniers de poursuivre leur guerre, ça vous le savez. Téhéran change de riposte et perturbe l'économie planétaire en empêchant le trafic dans ce passage stratégique. Vous avez sûrement entendu parler de ce détroit d'Hormuz. Le Parisien vous explique tout extrêmement clairement ce matin sur ce qui s'y passe et sur ce qu'il pourrait s'y passer. Guerre en terrain miné, titre le journal page 2. Le régime iranien promet de placer des dizaines d'explosifs dans le détroit d'Hormuz, lieu de transit de 20% du pétrole mondial. Pas seulement du pétrole aussi, d'une partie du gaz. Une colonne de fumée noire s'élève au-dessus des flots, écrit Robin Corda dans le journal. Deux projectiles iraniens viennent de frapper le Mayuri Nari ce mercredi matin. C'est un navire, c'est un bâtiment. La salle des machines de ce cargo thaïlandais prend feu. Des vedettes sont envoyées au secours de l'équipage. Le monde entier regarde interdit le détroit d'Hormuz. La guerre qui ronge le Moyen-Orient se joue désormais dans ce goulet d'étranglement d'une cinquantaine de kilomètres. Peut-être qu'on pourrait le situer, non ?
Ouais, merci de la Provence. Journal du Sud dans la région de Marseille. Ok, nous on est là en haut à gauche. Donc l'Iran, ici, vous voyez, hein, l'Iran, Oman, Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, Koweït, Irak. Voilà, et l'île d'Hormuz, c'est là. Donc maintenant qu'on la situe en continu, la guerre qui ronge le Moyen-Orient se joue désormais là, dans ce goulet d'étranglement d'une cinquantaine de kilomètres, que dominent de part et d'autre les côtes, on vient de le voir nous parce qu'on était en mode géo, les côtes rocheuses de l'Iran et du Sultanat d'Oman, les Mollahs, donc le régime islamique au pouvoir en Iran, cernés, ont fini par abattre leur dernière carte dans la droite lignée de leur stratégie de guerre low cost. Ils n'ont pas les mêmes moyens que l'armée américaine et israélienne. Israël et les États-Unis qui pilonnent Téhéran depuis bientôt 2 semaines, on en parle tous les jours ici, quelques drones et missiles ont suffi en réponse à perturber l'économie mondiale. Vous savez que l'économie mondiale est aujourd'hui menacée d'une vraie crise, avec une crise pétrolière qui pourrait, en mode domino, impacter toute l'économie mondiale, y compris l'économie française, on en parlera dans un instant. Près de 20% du pétrole transite habituellement par ce détroit, 20% du pétrole mondial, hein, c'est les pays asiatiques notamment qui dépendent énormément de ce pétrole, au moins 3 navires commerciaux y ont été frappés tour à tour mercredi, hier. Déjà, le cours de l'or noir flambe, les prix à la pompe augmentent, si vous avez une voiture, vous l'avez peut-être déjà constaté, les bourses tanguent, dans l'urgence, l'Agence internationale de l'énergie a convaincu ses 32 pays membres de libérer massivement des réserves de pétrole, hein, puisque depuis la crise pétrolière de 1973, il y a une obligation pour ces pays membres de l'Agence internationale de l'énergie d'avoir des stocks. 400 millions de barils, soit le plus gros prélèvement jamais réalisé dans ces stocks constitués pour résister aux pires crises. Et ce cours du pétrole, bon ben, il évolue, hein. Il a frôlé les $120, il est redescendu à $85 le baril. MMG me dit à l'instant qu'il est repassé au-dessus des $100 le baril. Ce mercredi, c'était hier, Emmanuel Macron a tenu une réunion du G7 par visioconférence. En introduction, le président français a appelé le président américain Trump et les autres dirigeants à se coordonner afin de rétablir la liberté de circulation, de navigation dès que possible. Alors quoi ? La question c'est comment tu fais ? Vous allez voir que c'est assez compliqué. Le chef de l'État a très vite placé la France en première ligne dans cette contre-offensive. Vous savez qu'on a des navires dans la région. Depuis le porte-avions Charles de Gaulle, Macron avait vanté lundi la capacité de projection de l'armée française. Il y a le Charles de Gaulle, il y a son escorte, il y a 8 frégates, il y a 2 porte-hélicoptères, il y a 20 rafales dans la région. Techniquement, écoutez, c'est important, le détroit n'est pas encore totalement bloqué, mais il y a des menaces. Et du coup, je pense que le Parisien va nous l'expliquer, qu'il y a des menaces, il y a des tirs de ce qui sont bateaux des missiles, il y a sans doute des mines aussi, on va parler des mines. Et du coup, que font les compagnies d'assurance qui assurent les navires qui doivent passer ? Ben, en fait, les primes flambent. Et les bateaux, en fait, non seulement les armateurs disent on veut pas prendre le risque d'exploser, quoi, mais il y a aussi, on veut pas payer la prime d'assurance qui est dingue. Et donc, il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de bateaux qui attendent, qui sont à l'entrée du détroit d'Hormuz. Techniquement, le détroit n'est pas encore totalement bloqué, mais chaque nouvelle menace compromet un peu plus les passages. Les armateurs refusent de se risquer à traverser ces eaux dangereuses. Les primes d'assurance grimpent, une cinquantaine de navires français patientent au large. Rien que pour la France, une cinquantaine de navires. Compte tenu de la géographie des lieux, l'Iran a toujours eu la capacité de neutraliser ce couloir stratégique, explique un spécialiste des questions navales et du Moyen-Orient qui s'appelle Rachid Shaker. Il se servait de cette menace comme d'une assurance vie dans le passé. Il le fait maintenant non plus pour se prémunir d'une attaque, mais pour mettre un terme à l'attaque des armées américaines et israéliennes en mode « arrêtez vos frappes, sinon je bloque le détroit d'Ormuz et vous allez voir vos économies impactées ». Cette politique de la mer brûlée, jolie, entraîne toute la région par le fond, le gaz liquéfié du Qatar, le pétrole des Émirats arabes unis, celui du Koweït qui transite par le détroit. Le régime iranien harcelait jusque-là ses partenaires de Washington pour qu'ils fassent pression sur les États-Unis d'arrêter leurs frappes, sans succès. La République islamique semble aujourd'hui revigorée par sa capacité de nuisance. Vous savez que les frappes américaines et israéliennes ont décapité le régime, mais la tête a aussitôt repoussé. Le régime s'organise depuis longtemps pour ne laisser aucune vacance du pouvoir. Et il y a un nouveau guide islamique, le fils de l'ancien ayatollah Khamenei, c'était le premier. Les ennemis de Téhéran doivent envisager la possibilité qu'ils soient engagés dans une guerre d'usure, donc une guerre longue, contrairement à ce que Trump a déclaré en début de semaine pour rassurer les marchés financiers, quand il a dit « vous inquiétez pas, c'est bientôt fini », l'Iran semble au contraire s'engager dans un conflit long qui va détruire l'économie mondiale, se délecte déjà en tout cas un haut conseiller iranien à la télévision d'État. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Après la chaîne américaine CNN, les gardiens de la révolution iranien auraient désormais placé quelques dizaines de mines dans les eaux du Détroit. Mais pas, il suffit de pas grand-chose. Hein. Il en disposerait d'un stock de plusieurs milliers, de quoi bloquer tout le passage pour des mois, voire des années, déclare Stéphane Audran, qui est un consultant en risque international. Si pour une raison quelconque, des mines ont été posées et qu'elles ne sont pas retirées immédiatement, ça c'est Trump qui tape du poing sur la table, les conséquences militaires pour l'Iran seront sans précédent, a grondé Trump mardi. 24 heures plus tard, il annonçait que 28 bateaux poseurs de mines iraniens ont été détruits dans les environs. Chaque heure compte. Le président des États-Unis connaît la puissance des fluctuations du marché. Non, parce que Trump, il est sous pression. Que l'économie américaine est malgré tout menacée, même si les États-Unis sont un énorme producteur de pétrole, hein, malgré tout, et il y a des risques de hausse des prix également pour les États-Unis, d'inflation, et ça, les électeurs américains, à quelques mois des élections de mi-mandat, des mid-terms, n'aiment pas ça du tout. Dès que je souhaiterais, bon ça c'est Trump qui fanfaronne, mais c'est comme d'habitude, dès que je souhaiterais que la guerre s'arrête, ça s'arrêtera, a-t-il encore tenté de rassurer hier, mercredi. La pression s'accroît sur Washington. Pendant près de 40 ans, les États-Unis ont maintenu à Bahreïn. Alors ça, c'est l'histoire. Moi, j'apprends ça dans le Parisien, c'est incroyable, écoutez. Pendant près de 40 ans, les États-Unis ont maintenu à Bahreïn une petite flottille de navires spécialisés dans la lutte contre les mines. À l'automne 2025, devinez qui a décidé de rapatrier ces bâtiments anti-mines jugés trop chers à l'usage.
Ta-da !
Donald Trump.
La houlette.
Des systèmes robotisés devaient remplacer ces bateaux vieillissants. Problèmes mécaniques et panne de réseau clouent ces systèmes robotisés encore à quai. Il n'y a plus de navires pour déminer. Trump les a enlevés. Les quatre derniers navires dédiés de la marine américaine ont quitté la zone en janvier, alors que Trump commençait à déployer son armada maritime pour faire pression sur Téhéran dans le détroit. La mer est désormais à nu. Oups. La boulette. Petit article du Parisien, vous voyez, 4 colonnes de Robin Corda, mais sur un sujet aussi compliqué, je trouve pour le coup que c'est extrêmement clair.
C'est la faute de Biden et des démocrates, et Kilguren qui a pas écouté à l'instant ce que je viens de dire.
La mer à nu, la mer MER, la mer. Certains, la semaine dernière, me disaient, pas beaucoup, mais oh là là, pourquoi tu nous parles de l'Iran? C'est loin, ça me concerne pas, ça m'intéresse pas. Allez, let's go. Non seulement, si tu fais de temps en temps un plein d'essence, tu vas être très vite concerné, c'est-à-dire à ton prochain plein, tu vas le sentir passer, mais c'est pas tout. En fait, c'est toute l'économie française qui pourrait être impactée par cette histoire. C'est ce que nous explique un économiste, un professeur de finance qui s'appelle Radwan Abdoun, ici dans le Parisien. Alors que l'Iran menace de bloquer le golfe Persique avec des mines sous-marines, Radwan Abdoun, professeur de finance, décrypte les conséquences économiques d'une telle opération pour l'Europe et le Moyen-Orient. Let's go. Question du Parisien. L'Iran menace de miner le détroit d'Ormuz. Quel serait l'impact pour la France? Réponse de l'enseignant. Colossal. Colossal. Pour les acteurs de l'énergie, le blocage du détroit d'Ormuz est indiscutablement le scénario le plus redouté. Depuis le début du conflit, le prix du pétrole a bondi de 30%. La guerre a donc eu des conséquences immédiates. Mais même si la guerre s'arrête ou que les acteurs du G7 tentent de rassurer, la présence de mines dans le détroit d'Ormuz ne calmera pas les marchés. Les primes d'assurance ne baisseront pas car le danger persistera pendant des mois et les moyens de déminage qui devront être mobilisés seront énormes. Quelles conséquences pour le pouvoir d'achat des Français? Si la situation dans le détroit empêche les exportations, les prix du pétrole risquent de fortement augmenter dans la durée. On le voit déjà à la pompe, mais cela s'amplifiera. Lui, il pense que si la crise se poursuit, on va payer de plus en plus cher, notamment notre plein d'essence. Voilà. Les transporteurs routiers aussi sont extrêmement inquiets. On le voit déjà à la pompe, mais cela s'amplifiera. Même chose pour le gaz. La France importe du Qatar environ 30% de son gaz naturel liquéfié. Le reste vient essentiellement des États-Unis et d'Algérie. Le minage du détroit d'Ormuz provoquerait une interruption brutale d'une partie de notre approvisionnement, donc on va être impacté. La bonne nouvelle, c'est que nous arrivons bientôt en période estivale, les particuliers ont moins besoin de se chauffer, mais sur les marchés, les prix du gaz vont malgré tout s'envoler et sera un impact sur le prix de l'électricité, parce que c'est un peu étrange, mais le prix de l'électricité, il est aussi déterminé par le prix du gaz. Les agriculteurs s'inquiètent également. À raison, nous dit ce spécialiste, car la région produit et exporte une part importante des engrais utilisés par les cultivateurs français. Par exemple, environ 40% de l'urée que nous importons vient du Moyen-Orient. L'urée, c'est pas le pipi, l'urée, c'est pas le mot scientifique pour pipi, ça. Excusez-moi, hein, comme je suis en plein dans les couches en ce moment. Pas pour moi, hein. Pour mon dernier petit. L'urée, c'est un composant de l'urine. Ah, c'est un composant de l'urine. Je crois que c'était le pipi, moi. Ah oui, substance cristalline. Ouhou ! Cristalline ? Cristalline, c'est pas de l'eau ? Je suis perdu. Que l'on rencontre dans le sang et l'urine des carnivores, d'accord. Ah, c'est aussi un composé chimique. D'accord. Je reviens à l'article. Donc, 40% de l'urée que nous importons vient du Moyen-Orient. Le souci, c'est que les professionnels auront besoin de ces engrais en mars ou avril. C'est maintenant. Lors des cultures de maïs et céréales indispensables pour les prochaines récoltes, pour l'Europe, il y va de notre sécurité alimentaire. Vous vous rendez compte du blocage du détroit d'Ormuz jusqu'à l'impact sur les cultures de maïs et de céréales en France. Question du Parisien. Est-ce que les pays du Golfe risquent aussi de subir de lourdes répercussions? Oui, c'est certain. Le port de Dubaï est l'une des plus grosses plateformes portuaires du monde. Là, on parle plus que de pétrole. Le moindre blocage aura donc des répercussions gigantesques, d'autant que les pays du Golfe importent énormément de produits. Ils sont très dépendants du commerce maritime pour faire venir leurs marchandises, assurer leur développement. Après, d'autres routes, via la mer Rouge puis l'Arabie Saoudite par exemple, pourront approvisionner la zone, une solution de dépannage en attendant que le détroit soit ouvert. Dernière question, est-ce que les entreprises françaises implantées dans la région peuvent être également en difficulté? Certainement, je pense par exemple à Safran, qui a des sites de production de pièces détachées et d'éléments d'assemblage d'avions à Abu Dhabi. La France a un partenariat étroit avec les Émirats Arabes Unis. Certaines grandes entreprises du secteur aéronautique ont délocalisé une partie de leur production pour répondre aux commandes locales. Par ailleurs, Carrefour est également très présent aux Émirats. Il est tout à fait possible que le groupe soit déjà perturbé dans ses approvisionnements. Alors, donc c'est pas qu'une question de pétrole, vous le voyez. Amis de YouTube, n'hésitez pas à nous mettre un petit like, un petit boost sur cet extrait. Et n'oubliez pas, si vous voulez nous rejoindre tous les matins sur Twitch pour la matinée éteinte, c'est avec plaisir. On n'est pas sectaire, on aime tout le monde. On est tout pipou, dit même Sugar.